Nous sommes le 5 mars 2018 et voici votre revue de presse au quotidien des quotidiens et avec vous, en remplacement d'Hélène Denis aujourd'hui et demain, François Brodeur. Grosse journée en actualité où il sera beaucoup question d'actualité de Donald Trump parce que c'est inévitable. Mais auparavant, je vous avouerai mon petit secret, je rêve d'une date neuve, genre le 30 février par exemple. Bref, une date qui n'aurait pas servi et pour laquelle Jean-Sébastien serait bien en mal de nous donner un éphéméride. Jean-Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé au travers des âges un 5 mars?
Eh bien, juste pour vous, François, un 5 mars 1668, une ordonnance du Conseil souverain permet de fabriquer de la bière en Nouvelle-France. Alors, je sais que ça fait votre bonheur de savoir que maintenant, en Nouvelle-France, au Québec, on met de la bière grâce à cette ordonnance qui date de 1668. 1770, cette fois à Boston, des soldats anglais tuent 5 manifestants, ce qui précipitera la guerre d'indépendance aux États-Unis. 1844, toujours un 5 mars, la capitale du Canada est transférée de Kingston à Montréal. 1910, au Col Rogers, en Colombie-Britannique, une avalanche tue 62 travailleurs du chemin de fer. 1933, en Allemagne, des élections tenues sous pression nazie donnent, à la grande surprise, une majorité de sièges aux hitlériens. 1953, après 29 ans de dictature et des millions de morts en Union soviétique, le dictateur Staline né Joseph Djougachvili. Staline, bref, décède. Mm-hmm. 1958, encore un 5 mars, sur le chantier d'un pont autoroutier entre Montréal et Laval, un caisson est écrasé par les glaces et 11 ouvriers périssent noyés. 1962, à la prison d'Oran, en Algérie, des Européens assassinent des prisonniers politiques musulmans. 5 mars 1963, une autre bonne nouvelle pour vous, François, brevet déposé pour le hula hoop.
Ah oui, tous les jours, une demi-heure de hula hoop, tout le monde.
Oui, ce jouet qui fait encore fureur chez les jeunes aujourd'hui. 1979, le survol de Jupiter par la sonde spatiale Voyager 1 révèle la présence de 8 volcans émettant des panaches sulfurées à 200 km de hauteur. 1989, le groupe d'édition Time fusionne avec le studio Warner Brothers. 5 mars 1989, donc même année encore, début d'émeutes anti-chinoises au Tibet. 1990, deux ailes sont saccagées à la prison, de Bordeaux à Montréal. 1993, Ben Johnson est banni à vie des compétitions athlétiques pour son utilisation de substances prohibées dans les Olympiques quelques années plus tôt. 1998, la sonde américaine Lunar Prospector détecte des poches de glace dispersées sous la surface de la Lune. 5 mars 2003, Bombardier annonce le licenciement de 1800 employés à Montréal, Mirabel et Toronto. 2004, le président de Viarail est congédié à la suite d'irrégularités dans le programme fédéral des commandites. 5 mars 2013, après un long combat contre le cancer, le président du Venezuela, Hugo Chavez, rend l'âme à l'âge de 58 ans. Et 5 mars 2015, l'État islamique détruit au bulldozer les ruines de Nimroud, capitale d'Assyrie, qui a été la capitale d'Assyrie entre les ans 879 et 613 avant Jésus-Christ. Pour rester dans le domaine des décès, 5 mars, disparition en 1967, pardonnez-moi, de Georges Phileas Vanier, premier Canadien français gouverneur général. 5 mars 1953, décès du compositeur russe Sergei Prokofiev. Et 1827, l'inventeur de la pile électrique, Alessandro Volta.
Mm-hmm, dont le nom est devenu Volt.
Tout à fait.
Alors, sans plus attendre, on commence immédiatement avec la presse et une nouvelle qui nous a tous un peu bouleversés quelque part et qui connaît des suites depuis la mort d'Athéna Gervais. On apprenait donc aujourd'hui dans un texte d'Audrey Ruel-Manceau et de Bruno Bisson que le fabricant de Fucked Up cesse la production. Le groupe Geloso cesse dès maintenant la production de la boisson sucrée alcoolisée Fucked Up alors que le co-président du groupe reconnaît que ce produit n'aurait jamais dû exister. Les canettes de Fucked Up seront retirées des tablettes le plus rapidement possible, une réaction directe à la mort tragique d'une adolescente de 14 ans jeudi dernier à Laval. J'ai ordonné à mes employés l'arrêt immédiat de la production de la boisson Fucked Up. Vendredi dernier, j'ai également ordonné le retrait de toutes les publicités qui la concernent. C'est la bonne chose à faire, a déclaré dimanche soir Aldo Geloso, coprésident du groupe Geloso, en précisant que les démarches étaient en branle avec ses équipes internes, les détaillants et toute l'industrie pour faire disparaître le plus rapidement possible la boisson Fucked Up du marché. Jeudi dernier, le corps d'Athéna Gervais, disparu depuis 3 jours, a été retrouvé dans un ruisseau derrière son école secondaire de Laval. Des amis de l'adolescente ont confié à la presse qu'elle aurait consommé 2 canettes de la boisson Fucked Up lundi à l'heure du dîner, peu avant sa disparition. Selon leur dire, elle était ivre au point de tituber et d'être incapable de retourner en classe. La boisson sucrée a une teneur en alcool de 11,9%. La police n'a pas confirmé ces témoignages, mais privilégie la thèse de l'accident. Le groupe Geloso cesse dès maintenant la production de la boisson sucrée, alors que le co-président du groupe reconnaît que ce produit n'aurait jamais dû exister. Monsieur Geloso a expliqué que le groupe portant son nom, une entreprise familiale québécoise fondée il y a 50 ans, a développé Fucked Up pour faire compétition à un concurrent américain qui connaissait un succès fulgurant avec sa nouvelle boisson fruitée alcoolisée à 11,9, le Four Loko. Malgré nos réticences initiales, nous avions décidé d'aller de l'avant. Cela dit, avec le recul, je crois que c'était une erreur d'entrer dans cette catégorie pour faire concurrence à Four Loko. En fait, la catégorie Four Loko ne devrait même pas exister, a affirmé Aldo Geloso dans une longue déclaration envoyée à la presse dimanche soir. En décembre dernier, la boisson alcoolisée Four Loko a été retirée des épiceries et des dépanneurs puisqu'elle contenait de l'alcool éthylique plutôt que de l'alcool issu de la fermentation du malt, comme indiqué sur l'emballage. Le fabricant local qui se prépare à introduire de nouveaux Four Loko sur le marché doit, comme nous, prendre la bonne décision et ne pas aller de l'avant avec la production et la distribution de ce produit, espère M. Geloso. Le groupe d'adolescents qui était avec Athéna a confié à la presse qu'ils avaient dérobé des canettes de Fucked Up au dépanneur Couche-Tard situé non loin de l'école. Bien que le résultat des analyses toxicologiques ne soit pas encore connu, la chaîne a ordonné vendredi le retrait de la boisson de ses commerces à la suite des événements survenus à Laval. Le groupe Geloso espère que tous les détaillants feront de même avec les produits de son concurrent. En ce sens, le groupe Geloso réclame une table de concertation avec tous les acteurs de l'industrie pour trouver des solutions pour mieux prévenir la consommation illégale par des mineurs et se dit prêt à jouer un rôle de leader afin qu'une telle tragédie ne se répète jamais. Le débat se transporte également à Ottawa alors que le sénateur André Pratt demande à Santé Canada de se pencher dès que possible sur les risques pour la santé des jeunes que représentent les boissons énergisantes alcoolisées. Dans une lettre à la ministre Ginette Petitpas-Taylor, le sénateur Pratt réclame son intervention en joignant sa voix à celle de l'organisme Éduc'alcool et d'autres intervenants de la santé publique qui s'inquiètent de la multiplication des cas d'intoxication et de l'accès trop facile des adolescents à ces boissons. La consommation est pourtant interdite aux personnes de moins de 18 ans. Si vous êtes titulaire d'une assurance médicaments privée, eh bien sachez que la plupart de vos ordonnances coûtent 20% de plus en moyenne que celles décernées en vertu du régime public. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans un texte de Marie-Ève Fournier, médicaments prescrits presque 20% plus cher pour les assurés du privé. On le sait, le prix des médicaments d'ordonnance varie beaucoup d'une pharmacie à l'autre. Mais saviez-vous que dans une même pharmacie, la facture n'est pas la même pour tout le monde? Les prix sont plus élevés pour les 5,2 millions de Québécois couverts par une assurance privée, ce qui totalise pour eux un surcoût de 500 millions de dollars par année, calcule Québec. L'écart de prix s'explique uniquement par le montant des honoraires professionnels facturés par les pharmaciens. Ce montant, inscrit depuis septembre sur les factures, inclut les services du pharmacien, une somme pour couvrir les frais d'exploitation de la pharmacie, loyer, taxes, électricité, etc., et un profit. Le médicament, lui, coûte la même chose pour tous les Québécois, qu'ils soient assurés par le privé ou par le régime public, la RAMQ. Pour les assurés RAMQ, Québec a négocié des honoraires fixes d'environ 9 $ par ordonnance. Mais lorsqu'un patient est couvert par une assurance privée, le pharmacien exige ce qu'il veut, et les montants varient beaucoup. Ce peut être 12, 23, voire 1057 $, révèle un document du ministère de la Santé et des Services sociaux obtenu par la presse. L'étude précise que les personnes assurées par le privé ont payé en moyenne leurs médicaments 18,6% plus cher que celles couvertes par le régime public. Au bout du compte, cette situation s'est traduite par un surcoût total estimé pour les assurés des régimes privés à 500 millions, écrit le MSSS dans un document daté du 7 février. C'est la première fois que ce surcoût est calculé pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le ministère, oui, qui a analysé des données de 2016. Étant donné le caractère confidentiel du document, le ministère n'a pas voulu émettre de commentaires. Le ministère de la Santé, Gaétan Barrette, juge pour sa part que 500 millions, c'est beaucoup, et rappelle qu'il a justement fait passer une loi pour la transparence à cause des écarts de coûts privés-publics. La différence de facturation la plus élevée touche les produits innovateurs pour lesquels il n'existe aucune copie générique. Dans ce cas précis, les honoraires facturés aux clients assurés par le privé sont trois fois plus élevés, plus 200% donc, observe le MSSS. Pour les médicaments génériques, les assurés du privé paient 35,6% plus cher que les assurés du public. Beaucoup de bruit la semaine dernière à propos du projet de taxer l'importation d'aluminium et d'acier aux États-Unis. L'agence France-Presse publie un texte intitulé « Acier et aluminium, Trump annulera les taxes si un aléna juste est signé ». Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il reviendrait sur son idée hautement controversée d'imposer prochainement de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium à condition qu'un nouvel accord de libre-échange nord-américain juste soit signé. « Nous avons de profonds déficits avec le Mexique et le Canada. L'ALENA, qui est en cours de renégociation en ce moment même, a été un mauvais accord pour les États-Unis. Énorme délocalisation d'entreprises et d'emplois. Les taxes sur l'acier et l'aluminium seront retirées uniquement si un nouvel accord juste de l'ALENA est signé », a écrit Donald Trump sur Twitter. Aussi, le Canada doit bien mieux traiter nos agriculteurs, très restrictifs, a-t-il ajouté, après avoir à plusieurs reprises critiqué son voisin du Nord, notamment sur sa production de lait. Le Mexique doit en faire beaucoup plus pour empêcher les drogues d'inonder les États-Unis. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Des millions de gens sont dépendants et meurent, a-t-il poursuivi. Les trois membres de l'ALENA, États-Unis, Mexique et Canada, sont engagés dans un septième et difficile round de négociations qui doit s'achever ce lundi. Donald Trump a par le passé qualifié cet accord de désastre pour les emplois aux États-Unis. Le président américain a annoncé aux débottés la semaine dernière qu'il comptait imposer prochainement des droits de douane de 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium, provoquant un tollé mondial, notamment en Europe. Il a accentué sa rhétorique protectionniste au cours du week-end en évoquant dans un tweet une taxe sur les importations de voitures européennes si l'Union européenne ripostait à sa décision d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Donc une guerre commerciale qui se profile. When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Let die.
used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry, say live and let die.
Sir Paul McCartney, Wings, Live and Let Die.
On passe au devoir et plus particulièrement un texte de Pauline Gravel, des recommandations nationales pour traiter la dépendance aux opioïdes. Pour faire face à la crise des opioïdes qui sévit au pays, un groupe d'experts provoque pour la première fois au Canada, pour la première fois au Canada, des lignes directrices nationales en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes, préconisant le retour à des agonistes opioïdes tels que la buprénorphine naxolone et la méthadone et déconseillant fortement le sevrage rapide et complet. Ces recommandations fondées sur des données scientifiques s'adressent à tous les professionnels de la santé. Le Canada traverse ce qu'on peut appeler une crise des opioïdes avec 2861 décès dus à une surdose en 2016 et plus de 4000 en 2017. Cette crise est alimentée par la prescription excessive d'opioïdes médicamenteux pour des douleurs chroniques et la présence non déclarée d'opioïdes synthétiques comme le fentanyl qui est 100 fois plus puissant que la morphine dans maintes drogues vendues dans la rue. Des recommandations nationales fondées sur les données probantes de la littérature scientifique la plus récente s'imposaient donc pour répondre à cette urgence de santé publique. Ces lignes directrices qui sont basées sur des données scientifiques ainsi que sur les préférences et les valeurs des usagers qui ont également été consultés se veulent un outil pour aider les médecins à choisir la meilleure option thérapeutique pour leurs patients, résume la docteure Julie Bruneau du Centre de recherche du CHUM qui a dirigé le groupe pan-canadien formé de 43 experts et d'usagers qui a développé des lignes directrices publiées aujourd'hui dans le journal de l'Association médicale canadienne. Nouvelle d'Italie, plus particulièrement de la démocratie italienne, c'est la Société de presse et Olivier Baube de l'agence France Presse qui font un texte conjoint dans les pages du Devoir. Aucune coalition ne semble être en mesure d'obtenir une majorité à la Chambre des députés au Parlement italien selon les premiers résultats donnés dimanche par la télévision d'État. Après le dépouillement du tiers des urnes, 22 000 sur 61 000, la coalition de droite menée par Forza Italia, le parti de l'ancien controversé premier ministre Silvio Berlusconi et les xénophobes de la Ligue du Nord de Matteo Salvini, avaient obtenu 36,74% des voix. Au sein même de la coalition, la Ligue dominait sur la Forza par plus de 5 points. Elle se retrouve en position de force au sein du regroupement et pourrait réclamer le poste de premier ministre. Le mouvement anti-institutionnel 5 étoiles récoltait 30,91%. La coalition gouvernementale de gauche en arrachait, devant se contenter de 24,56% des suffrages. Le Parti démocrate du président du Conseil, Pablo Gentiloni, mais mené par Matteo Renzi, en obtenait à lui seul 20,18%. Ce sont ces quatre alliés, qui en arrachaient, n'obtenant que 2,8% des voix à 0,45%. forte de ses 3,58% pour d'appui. Libéry et Ougouali, une formation de la gauche alternative, pourraient donner un coup de main à la coalition de gauche et même l'aider à se maintenir au pouvoir afin d'empêcher la formation d'un gouvernement Salvini. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution compte tenu d'une marge d'erreur de 4% et de la complexité du mode de scrutin pour l'élection de la Chambre des députés au Sénat. La nouvelle loi électorale mélange les systèmes proportionnels et majoritaires et ces estimations ne permettent donc pas de donner une idée précise de la composition des deux chambres. Selon les experts, le seuil pour obtenir la majorité des sièges est de 40 à 45. Quelques 46 millions d'Italiens étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. La participation électorale s'est élevée à plus de 70%, en baisse par rapport aux élections législatives précédentes, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Nombre d'électeurs se sont montrés amers ou désabusés à la sortie des bureaux de vote après une campagne aux accents parfois violents, dominée par les questions liées à l'immigration ou à l'insécurité. Les mouvements néofascistes ont multiplié les rassemblements publics, ce qui a provoqué des tensions avec les militants d'extrême-gauche, en particulier après les coups de feu d'un militant d'extrême-droite contre des Africains à Macerata. On croyait que l'ingérence des gouvernements dans la recherche scientifique d'État, c'était quelque chose qui était propre à l'ère Harper. Eh bien, il faut malheureusement constater que c'est peut-être pas le cas, en tout cas au Québec, où des recherches en matière agricole financées par Québec ont été influencées. C'est ce que rapporte Sarah R. Champagne. Néonicotinoïdes, crise dans un centre de recherche agricole financé par Québec. Des chercheurs et employés du Centre de recherche sur les grains, le Sérum, dénoncent un climat de contrôle, de pression et d'ingérence à propos de l'épineuse question des pesticides néonicotinoïdes, a appris Le Devoir. En 2 ans, la moitié des membres du personnel du centre, financé en majorité par Québec, ont d'ailleurs démissionné. 5 chercheurs sont au nombre des démissionnaires et 10 d'employés, au total 9 personnes, ont témoigné au Devoir de leur profond malaise avec certains membres du conseil d'administration qui n'hésitent pas à faire connaître leur position pro-pesticides au point de s'ingérer dans les travaux de recherche. Plusieurs ex-employés du Sérum ont tenté d'alerter le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, dès 2013. Refusant toute demande d'entrevue, le MAPAC s'est dit préoccupé par la situation du point de vue de la gestion des ressources humaines. Il a imposé certaines mesures conditionnelles à son financement, renouvelées pour 1 an seulement plutôt que 2. Observateur externe bien au fait de l'encadrement habituel de la recherche, le professeur Éric Lucas, responsable du laboratoire de lutte biologique de l'UQAM, a lui aussi fait part de ses inquiétudes au MAPAC d'où provient le financement du sérum. Il craint la perte d'une précieuse expertise entomologique au centre avec les démissions répétitives. C'est une situation inexplicable dans un centre financé en grande partie par des fonds publics. Le financement public du sérum pour chacune des 3 dernières années s'élève à au moins 2 millions de dollars par année, ce qui représente entre 60 et 70% du financement total du centre. Le reste vient de fonds de recherche fédéraux, des producteurs de grains du Québec et de la coop fédérée. Nos sources, qui requièrent toute l'anonymat par crainte de représailles, rapportent comment s'exprimaient les tensions autour des conclusions des recherches du sérum. Des chercheurs qui se penchaient plus spécifiquement sur les effets, désirables et indésirables, des pesticides néonicotinoïdes étaient carrément avertis de ne pas faire trop d'efforts pour diffuser leurs recherches et de ne pas parler aux journalistes sans un processus fastidieux d'approbation. D'autres racontent avoir été découragés de publier dans des revues scientifiques, un processus habituellement encouragé partout ailleurs dans le milieu. Un collaborateur à une recherche raconte avoir été avisé à la dernière minute que le budget ne serait pas débloqué pour payer une telle publication, pourtant prévue au budget initial. Un candidat à l'embauche relate quant à lui sa stupéfaction lorsque le comité d'embauche l'a averti que le poste de chercheur convoité ne prévoyait pas l'écriture de ce genre d'article. Un programme du MAPAC est pourtant spécifiquement destiné à encourager la publication d'articles dans les revues scientifiques avec les résultats issus des projets soutenus financièrement, écrit-on au Devoir. Le Devoir aussi nous parle des tarifs sur l'aluminium et l'acier, cette fois pour nous avertir que le Canada ne peut pas faire partie des pays exemptés. Alexander Panetta, le Canada ne peut pas être exempté des tarifs. Si les Canadiens espèrent encore être épargnés par les tarifs aux États-Unis, ils pourraient être déçus. Un responsable à la Maison-Blanche a affirmé aux émissions d'affaires publiques à la télévision dimanche que le président Donald Trump a fait son nid. Les tarifs sur l'aluminium et l'acier s'appliqueront à tous les pays, y compris le principal fournisseur des deux produits aux États-Unis, le Canada. Le responsable du commerce à la Maison-Blanche, Peter Navarro, a affirmé qu'établir une exception pour un pays créerait une pente glissante, les autres pays réclamant le même traitement que celui qui serait réservé au Canada. « Ce n'est pas sa décision », a dit M. Navarro, questionné sur Fox sur la possibilité d'exclusion d'un pays des mesures punitives. « Dès l'instant où il exempte un pays, son téléphone commence à sonner avec des appels d'autres chefs d'État ou de gouvernement », a-t-il poursuivi. Alors voilà, pour ne pas que le téléphone de M. Trump l'empêche de manger son hamburger, on ne sera pas exempté. On fait une courte pause et on revient avec les nouvelles du Journal de Montréal.
Des mille rien que pour les voir, comme des billes qui brillent dans mon soir. Tes yeux, les deux, rivés sur moi. J'ai parcouru des mille que pour les sentir, sur mes dents accentuer mon plaisir. Tes mains, les deux, percer ma voix.
Ariane Brunet, Fais-moi tourner encore sur Canal M.
La semaine dernière, il était beaucoup question de ces médecins qui, de manière surprenante, disaient qu'ils étaient trop payés et appelaient Québec à redistribuer l'argent vers les soins et vers les autres membres du personnel médical. Eh bien, aujourd'hui, dans les pages du Journal de Montréal, Éric-Yvan Lemay attire notre attention sur un aspect de la rémunération des spécialistes un peu surprenant. Le gouvernement a versé 111 millions de dollars en primes de réunion aux médecins depuis 3 ans. Les médecins québécois ont touché plus de 111 millions depuis 3 ans pour participer à des réunions et comités pour lesquels ils sont payés jusqu'à 200 dollars de l'heure. Ces primes de réunion ont été créées en 2013 dans la foulée des augmentations de rémunération consenties aux médecins. Contrairement à eux, les autres professionnels autour de la table n'ont droit à aucune prime et doivent se contenter de leur salaire horaire qui est beaucoup moins élevé. Ces avantages s'ajoutent à d'autres primes révélées par notre bureau d'enquête dans les dernières semaines. La prime d'assiduité de 105 $ de l'heure pour les chirurgiens qui arrivent avant 8 heures le matin au bloc. Le forfait jaquette de 65,95 pour les internistes qui mettent des gants et un masque lorsqu'ils visitent des patients en isolement. Les primes de réunion ont été négociées par l'ancien ministre Régent Hébert et l'actuel ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui était alors à la tête de la Fédération des médecins spécialistes. Elles ont même fortement augmenté en 3 ans. Pour les médecins spécialistes, elles sont ainsi passées de 150 $ de l'heure au début de 2014 à 175 en 2015 et 200 $ de l'heure en 2016. On retrouve deux types de primes de réunion. D'abord, tant les spécialistes que les omnipraticiens peuvent réclamer une prime dès qu'ils participent à des réunions qui regroupent plusieurs professionnels de la santé pour discuter des dossiers de patients. Certaines de ces réunions se déroulent sur l'heure du dîner. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être payé pour dîner, ironise un médecin qui a droit à cette prime. Un deuxième type de prime de réunion concerne uniquement les spécialistes. Ces derniers peuvent réclamer 200 $ de l'heure pour une série de 74 comités réunis sous le thème des activités médico-administratives. Comité de la bibliothèque, comité des plaintes, comité de la gestion des lits, attribution des bourses, tout y passe. Au ministère, on dit que l'argent sert à faire participer davantage les médecins à ces différents comités. Ces modalités de rémunération ont été mises en place afin de favoriser la participation des médecins spécialistes dans la gouverne et la performance du réseau de la santé, ainsi que dans l'organisation hospitalière, indique la porte-parole Marie-Claude Lacasse par courriel. Les deux types de primes, d'abord les primes multidisciplinaires. Chaque spécialiste présent a droit à 200 $ de l'heure. Il doit être présent durant un minimum de 60 minutes, sinon il n'est pas payé. Si la réunion dure plus longtemps, il a droit à 50 $ par 15 minutes supplémentaires. Toutefois, un spécialiste ne peut pas réclamer plus de 40 heures de réunion pour ce type de réunion multidisciplinaire par année. Une limite est également établie à 1h45 par jour. Les omnipraticiens, eux, ont droit à un peu moins de 100 $ et il n'y a pas de maximum dans leur cas. Et pour les activités médico-administratives, eh bien, sachez-le, c'est encore une autre série de réunions à 200 $ de l'heure. Le nombre maximum d'heures a été établi par un comité, pas plus de 3h30 par jour. Tout ça pour siéger donc sur des réunions hospitalières. En éducation, le Parti québécois souhaite accroître la fierté des jeunes face à leur territoire, ce que rapporte l'agence QMI sous ce titre d'ailleurs. Un gouvernement du Parti québécois injecterait 20 millions de dollars annuellement pour mettre en place des activités de découverte, de familiarisation et d'attachement au territoire dans lequel vivent les jeunes. Lors d'une conférence de presse dimanche à Montréal, La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation primaire et secondaire et de persévérance scolaire, Carole Poirier, et le porte-parole en matière d'identité nationale, Pascal Bérubé, ont expliqué que ces activités s'inscriraient dans le cadre de projets pilotes destinés aux élèves de deuxième et troisième cycle du primaire. 10 demi-journées sur 3 ans seraient consacrées à ces activités qui seraient offertes en lien, notamment, avec les municipalités régionales de comté et les sociétés d'histoire locale. Elles s'inscriraient au domaine actuel univers social et sciences et technologies ou dans le cadre du cours d'éducation à la citoyenneté que le PQ souhaite mettre en place pour remplacer l'actuel cours éthique et culture religieuse, ont précisé les deux députés. Les écoles participeront au projet pilote sur une base volontaire d'abord, puis les activités seront étendues graduellement à l'ensemble du Québec, a expliqué la députée Poirier. Ces activités seront déterminées selon les besoins et les réalités des milieux. Nous croyons que cette proposition aura un impact très positif sur la connaissance de l'identité et de l'histoire locale et régionale de nos jeunes. Nous nous sommes inspirés du projet Enseigner le Kamouraska. Cette initiative bas-laurentienne, développée par la MRC de Kamouraska et offerte depuis 4 ans, vise à accroître la connaissance et la fierté des jeunes à l'égard de notre territoire, a de son côté souligné Pascal Bérubé. Le ministre de l'Éducation faisait paraître mardi dernier son livre à lui où notamment il se prononçait en faveur de la création d'un ordre professionnel pour les enseignants. Dominique Scali nous dit que, et c'est son titre, « Un ordre des enseignants créerait la bisbille ». Créer un ordre des enseignants n'aiderait pas du tout à redorer l'image des professeurs, s'indignent les syndicats devant cette idée relancée par le ministre de l'Éducation la semaine dernière et qui divise les experts. C'est quoi le message? Qu'on n'est des pas bons? Le ministre ne se rend pas compte de la dureté de ses propositions, s'indigne Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Dans un livre paru mardi dernier, le ministre Sébastien Proulx propose de créer un ordre des enseignants afin de revaloriser la profession, une idée à laquelle est aussi favorable la coalition Avenir Québec. Un tel ordre aurait pour mission de protéger le public. Il permettrait notamment aux parents qui souhaitent dénoncer l'incompétence ou l'inconduite de professeurs de le faire sans passer par leur commission scolaire dans un contexte où peu d'enseignants sont congédiés. Or, les enseignants ne veulent rien savoir de payer des cotisations à un ordre qui viendrait ajouter de la bureaucratie au système, dit José Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Même si les parents sont tièdes, selon la Fédération des comités de parents, lors d'une consultation, Selon la Fédération des comités de parents, lors d'une consultation réalisée en 2016, seulement la moitié a dit être pour l'idée. Le public n'a pas besoin d'être protégé des profs. Ce sont les enseignants qui ont besoin d'être protégés des coupures de fonds, écrivait un parent dans le cadre de ce coup de sonde. Les 4 experts consultés par le journal sont eux aussi partagés. Selon Égide Royer, professeur à l'Université Laval, un ordre est essentiel, notamment pour s'assurer que les enseignants continuent de se perfectionner tout au long de leur carrière. Mais selon Maurice Tardif, professeur à l'Université de Montréal, les ordres professionnels qui fonctionnent le mieux sont ceux qui émanent de la volonté des travailleurs eux-mêmes. Ceux qui sont imposés par un gouvernement donnent lieu à des tensions, comme c'est le cas en Ontario. C'est sûr qu'il y aurait des conflits entre les syndicats et l'ordre. Ça donnerait lieu à une bataille épique, croit-il. Si le ministre voulait agir intelligemment, il consulterait les enseignants dans un sondage en contournant les syndicats. Ces derniers soulignent que d'autres avenues seraient efficaces pour revaloriser la profession, comme de hausser les salaires et d'offrir du soutien aux jeunes enseignants qui sortent de l'université. Les psychoéducateurs, eux, ont toutefois gagné en crédibilité depuis qu'ils ont un ordre, remarque le président Denis Leclerc, qui ne s'est pas prononcé en faveur d'un ordre des enseignants, mais se dit favorable à la réflexion suggérée par le ministre. On reste en enseignement cette fois-ci pour aborder la situation des étudiants au baccalauréat en enseignement, un baccalauréat qui est marqué par des stages non rémunérés. Les étudiants en enseignement se rassembleront ce matin à Montréal devant le bureau de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, pour revendiquer la compensation financière des stages. Les stagiaires en enseignement se retrouvent dès 10 heures, donc c'est commencé, devant le bâtiment situé sur la rue Follum. Ces derniers ont indiqué qu'ils seraient déguisés en médecins et porteront une banderole avec l'inscription « Faut-il être médecin pour que le budget réponde à nos besoins ?» peut-on lire dans un communiqué de la campagne de revendication et d'action interuniversitaire pour les étudiants d'éducation en stage. Rappelons que les étudiants en enseignement réclament une compensation financière hebdomadaire de 576 $ pendant 3 mois au cours de leur dernier stage. Il est temps que le gouvernement agisse pour valoriser la profession, et ça passe entre autres par une bourse aux stagiaires qui vivent dans la précarité financière, avait déclaré Antoine Côté, porte-parole de la coalition en février dernier. Selon la coalition, une bourse de 576 $ par semaine versée par l'aide financière aux études serait le moyen de lutter contre cette précarité financière des stagiaires en enseignement. Des recherches menées par l'Union étudiante du Québec indiquent que la mesure coûterait 20,3 millions de dollars par année au gouvernement, soit moins de 0,1% du budget en éducation du Québec.
Dans ta tête que sur mes deux pieds, s'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elle en dit pleine. Fait que j'ai décidé d'aboucher pis de te flusher, pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, je serais ton rabbin. Si t'étais un antisémite, ben, je serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une peau. De ta porte, j'ai fini d'attendre comme une citrouille fin avant. Est-ce même plus une question d'être capable, mais de joindre l'utile au désagréable. Parce que si t'étais un char, je serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben, je serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une pause.
Ravin, c'est le titre de cette pièce et on vient d'entendre Philippe Braque.
On quitte les quotidiens de la métropole pour s'en aller à Québec dans les pages du Soleil, où Mylène Moisan signe un très long texte pour nous parler des cadres qui œuvrent dans le secteur de la santé au Québec, texte qu'il nous sera impossible de lire au complet, malheureusement, mais je commence tout de suite. Pendant un an, en 2016, Chantal Marchand ne pouvait pas prouver la paye de ses employés. J'avais le bon logiciel, mais pas la bonne version. Tous les lundis, je devais aller voir un collègue pour lui demander d'approuver mes payes. Elle avait beau demander qu'on mette son logiciel à jour, en vain. Avant la réforme du système de santé, le problème aurait été vite réglé. Avec l'hypercentralisation, ses demandes se perdaient en chemin. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. En décembre, elle est partie pour devenir directrice générale de l'Association des gestionnaires en santé et services sociaux, l'AGESSS, qui regroupe la majorité des cadres du réseau, environ 6500. Depuis plus d'un an maintenant, elle constate à quel point les gestionnaires ont eux aussi la langue à terre. Elle a rencontré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en juillet. Ça faisait 3 ans et demi qu'on demandait une rencontre avec lui. Je lui ai demandé « Est-ce que vous êtes conscient de la pression que vous mettez sur les cadres? » Il a dit « Oui, oui ». Il l'admet donc. Je lui ai aussi dit qu'il ne pourrait pas en mettre et noter éternellement comme ça. Depuis, la pression augmente encore. Dans l'esprit des gens, un fonctionnaire, ça donne des ordres, ça pousse un crayon. Mais dans la réalité, il faut savoir que la majorité d'entre eux sont des professionnels, par exemple des infirmiers, des inhalothérapeutes, des magasiniers, qui acceptent de réaliser des tâches de gestion pour améliorer les choses. Selon les chiffres du ministère, des 11 139 postes à temps plein de cadres que comptait le réseau en 2013-2014, il en restait en 2016-2017 9090. C'est une diminution de plus de 2000 postes, soit 20% de moins que le 31 mars 2015, date à laquelle le ministère a regroupé les CSSS en CIS et en CIUS, les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Les cadres qui ont perdu leur poste l'ont appris en lisant la loi 10, la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Ils n'avaient jamais été avisés des changements. La loi a eu l'effet d'un véritable tremblement de terre chez les cadres. Ceux dont le poste était supprimé ont eu très peu de temps pour choisir entre rester disponible pour un transfert à un autre poste ou bien quitter le réseau avec une indemnité de départ réduite ou, en cas de retraite anticipée, les pénalités prévues. S'en est suivi un grand exercice de chaise musicale avec la perte d'expertise que cela suppose. Depuis 3 ans, certains cadres ont changé de poste plus d'une dizaine de fois, parfois quelques jours d'avis. Pierre angulaire de la réorganisation de nombreux établissements ont été fusionnés. Leur nombre est passé de 192 à 34. Et pour diriger les nouveaux établissements, Gaétan Barrette a lui-même choisi et nommé les 34 présidents-directeurs généraux dont le revenu et les responsabilités ont augmenté. Un décret du gouvernement fait passer le salaire moyen des PDG de 211 000 au 31 mars 2015 à 244 000 le lendemain, une hausse de 16 %. Le ministre Gaétan Barrette est très près de ses PDG. Il les rencontre tous 2 journées chaque mois. Il leur dit ce qu'il faut faire, il leur donne sa to-do list et les PDG vont appliquer ça dans leur établissement. Ça part d'en haut et ça descend en bas, directement du ministre. C'est là que ça achoppe. Présidente de l'Association des cadres supérieurs du réseau de la santé et des services sociaux, Carole Trempe est aux premières loges de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la méthode Barrette. Il y a une centralisation excessive que le gouvernement a mise en place, un contrôle omnipotent, des orientations très serrées. En nombre effarant, à une vitesse effrénée. À Ottawa, commencer la vie du mauvais pied, c'est un texte de Jacques Normand Sauvé, publié dans les pages du Droit. Longtemps associé au monde des adultes, des adolescents et des préadolescents, le conditionnement physique n'est pas que l'apanage des 10 ans et plus. Les bébés et les tout-petits aussi se doivent d'être actifs physiquement. On a longtemps eu l'impression que, pourvu qu'ils soient bien nourris et non frappés d'une maladie quelconque, nos tout-petits étaient en santé. Pourtant, Selon une étude publiée en 2017 par l'Observatoire des tout-petits, plus du tiers des enfants de 3 à 5 ans n'étaient pas assez actifs physiquement et les trois quarts d'entre eux passaient trop de temps devant des écrans, de télévision ou d'ordinateur. De plus, le tiers des enfants de 3 à 5 ans faisaient de l'embonpoint, étaient obèses ou risquaient de le devenir. Même s'il reconnaît que la santé physique des 0 à 5 ans s'est somme toute améliorée au cours des 10 dernières années quant au nombre de cas d'asthme, d'accidents et de maladies infectieuses, l'Observatoire des tout-petits se dit cependant préoccupé par le haut taux de césarienne, les éclosions de rougeole, l'embonpoint, l'obésité, la santé mentale des enfants et leur accès laborieux à un médecin de famille ou à un pédiatre. Les statistiques de l'Observatoire des tout-petits, un organisme sans but lucratif relié à la Fondation Lucie et André Chagnon, concernent les tout-petits Québécois et ont été rendues publiques en novembre 2017. Le rapport de l'Observatoire explique que les données quant à l'obésité infantile sont inquiétantes. Entre 2012 et 2015, un enfant âgé de 36 à 60 mois sur 3 était à risque d'embonpoint, faisait de l'embonpoint ou était obèse. Le rapport révèle également que le développement des enfants est préoccupant. 26 % des tout-petits à la maternelle étaient vulnérables dans au moins un domaine de développement en 2012. De ce nombre, la moitié était vulnérable dans plus d'un domaine de développement. Une équipe de l'Université Concordia à Montréal a étudié le rôle déterminant de la honte dans l'acquisition de mauvaises habitudes de vie durant l'enfance. Selon leurs observations, un individu qui se sent jugé sur la forme de son corps aura plus tendance à éviter de faire de l'exercice physique et donc à développer de mauvaises habitudes au courant de sa vie, ce qui rendra encore plus difficile la gestion de son poids. Ce cercle vicieux explique pourquoi les expériences vécues dès la petite enfance influencent la façon dont nous prenons en main notre santé tout au long de notre vie. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a des bonnes nouvelles provenant de l'industrie des pâtes et papiers. Alors, on va pas bouder notre plaisir et référer immédiatement un texte de Julie Lupien dans les pages de La Tribune. Domtar investit 37 millions à son usine de Windsor. L'usine Domtar de Windsor investira 37 millions pour moderniser sa cour à bois et discute de plusieurs autres projets de développement. Dans l'optique d'assurer la pérennité de son usine de Windsor, Domtar met en branle un projet de modernisation totalisant 37 millions. La nouvelle a été annoncée récemment aux quelques 800 employés. L'usine Domtar de Windsor célèbre déjà ses 30 ans, explique son directeur Eric Ashby. Chaque année, la direction s'assoit avec les employés pour établir un plan afin d'assurer la pérennité de l'usine et se projeter dans l'avenir. De quoi aura l'air l'usine en 2025, lance-t-il? Nous avons déjà investi dans l'énergie avec TG2 qui utilise de la biomasse forestière comme combustible. Nous poursuivrons donc avec les produits du bois et le papier. Au terme des travaux à la cour à bois, l'usine du rang 12 pourra être approvisionnée en arbres de différentes grandeurs. Cet investissement constitue une étape de plus afin d'orienter les opérations de la papetière en respectant les grands principes de l'économie circulaire. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien évidemment, on s'inquiète pour l'avenir de l'aluminium québécois. C'est d'ailleurs le titre de Bertrand Tremblay dans les pages du Nouvelliste. Le monde économique est en émoi. Après avoir menacé de droits d'exportation tous les partenaires économiques des États-Unis, Donald Trump désigne spécifiquement les industries de l'aluminium et de l'acier qui seront frappées. Cette semaine, annonçait-il vendredi dernier, de tarifs punitifs fixés à la hauteur de 10 et de 25 %. « Folie autodestructive », tranche le Wall Street Journal. Devant cette condamnation et celle de spécialistes américains qui ont analysé le danger d'une telle attitude, le locataire de la Maison-Blanche s'empresse de répliquer que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Un raisonnement que plusieurs relient à la puissance militaire de pays agresseurs responsables des deux dernières guerres mondiales. Et avec l'arsenal atomique, les apprentis sorciers détiennent le pouvoir du suicide collectif. Trump s'est amusé samedi lors d'un dîner de partisans républicains à sa propriété en Floride en lançant dans un éclat de rire et des applaudissements qu'être président à vie est une idée géniale.
tell me where did he come from? Then I know where to go. Mama says, look really hard, then you always find what you lost. She says he's never far, he goes out and works hard. Mama says working is good, no ungodly company, true. Where are you, Papa? Tell me where, Papa. Without having to show to you, I know you know it's no good. How come you, Papa? Tell me where you hide. All my fingers must have counted them a thousand times. Ute, Papa, ute. Ute, Papa, ute. Ute, Papa, ute. Ute, ute, Papa, ute. Ute, Papa, ute. Ute, Papa, ute. Ute, Papa, ute. Ute, ute, Papa, ute. Ute, ute, ute.
Well, you believe it or not, someday you'll believe no more. One day, all will be Papa. One day I'll walk out the door. Will we be despicable? Will we be admirable? Passing genes will be genius. Who takes blame for the irresponsible? Can you explain?
Formation néerlandaise Cut qui reprenait Stromae, Papa Ute.
On passe immédiatement au volet culturel de cette émission et pour parler en premier lieu de la politique du 1%. Vous savez, cette politique qui fait en sorte que lorsque Québec construit un édifice public, on consacre 1% du budget aux œuvres d'art qui doivent l'orner, qui en font finalement un endroit plus agréable. On se prépare à réviser cette politique, ce que nous rapporte Guillaume Bourgault-Côté. Art public, Québec veut moderniser la politique du 1%. Le ministère de la Culture confirme travailler un projet de révision du décret qui encadre la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Cette révision ne vise en aucun cas à limiter le champ d'application de la politique, soutient la porte-parole du ministère, Annie Le Gruyec. Une évaluation de la politique a récemment été menée et Québec en a dégagé trois constats. Il faut alléger et simplifier les processus administratifs, réviser les seuils et les modes de calcul et désigner un répondant officiel dans chacun des ministères. Québec a déjà eu à ce sujet des rencontres avec le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, le RAAV, qui se dit encouragé par l'évolution du dossier. Le ministère de la Culture s'est montré très ouvert à entendre nos suggestions et à les prendre en considération en vue de la mise à jour du décret au printemps 2018, écrivait récemment le RAAV à ses membres. Il y a une réelle intention d'aller de l'avant, confirme en entretien le directeur général du regroupement Bernard Guérin. Celui-ci plaide qu'il faut améliorer, revisiter et rafraîchir un décret dont la dernière révision date de 1996. Le RAAV souhaite ainsi un élargissement de l'application de la politique. Les démarches en cours surviennent quelques mois après une modification importante au fonctionnement de la politique du 1 %. En juillet dernier, la Ville de Québec et le ministère ont en effet conclu une entente déléguant à la Ville l'application de la politique. Ce processus découle de l'adoption en décembre 2016 de la loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec. La même disposition est d'ailleurs prévue dans la loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, adoptée en septembre 2017. 3 800 œuvres ont été réalisées dans les lieux publics du Québec depuis l'adoption de la politique du 1 % en 1961. À Montréal, l'entente de délégation n'est toutefois pas encore signée. Les discussions se poursuivent avec le ministère, indique Geneviève Jutras, attachée de presse au cabinet de la mairesse Valérie Plante. Une première rencontre a eu lieu le 6 février et d'autres rencontres de travail doivent se tenir ce printemps. Montréal espère une entente cet été. Alors hier, c'était le party bien habillé de Hollywood, la remise des Oscars. Pour en parler, j'aurais pu prendre des textes d'à peu près tous les quotidiens du Québec. J'ai choisi Le Soleil et le texte d'Éric Moreau. Les Oscars rendent hommage aux victimes. La 90e soirée des Oscars ne pouvait ignorer la prise de parole des derniers mois de toutes les victimes de discrimination et de harcèlement. Elle s'est largement déroulée directement et indirectement sous cet auspice. Côté récompense, la logique a été largement respectée malgré quelques surprises. La Forme de l'eau remportant 4 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Blade Runner 2049 est reparti avec 2 récompenses, dont celle de la direction photo remise à Roger Deakins. Clin d'œil à l'effroyable gaffe de l'an dernier, Warren Beatty et Faye Dunaway étaient de retour sur scène pour annoncer l'Oscar du meilleur film remis à La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Une soirée qui autrement n'a pas brillé par son éclat, mais a au moins récompensé ceux qu'il méritait à peu de choses près. À commencer par Frances McDormand qui remportait son 2e Oscar 21 ans après Fargo pour son incroyable incarnation d'une mère éplorée dans 3 affiches tout près d'Ebbing, Missouri. Elle a livré la plus intense intervention de la cérémonie en demandant à toutes les femmes en nomination de se lever et de l'accompagner dans l'obtention de cette récompense. L'actrice a exhorté les producteurs à miser sur l'inclusion. Gary Oldman, qui a rendu un touchant hommage à sa mère de 99 ans, est reparti comme prévu avec le titre du meilleur acteur pour son incroyable incarnation de Winston Churchill dans Les Heures sombres. Le film de Joe Wright a aussi obtenu l'Oscar du maquillage. Jimmy Kimmel, à la 2e année à l'animation, a pris le taureau par les cornes dès le début. Comme prévu, l'humoriste a lancé des pointes ironiques à propos du scandale qui a suivi la chute d'Harvey Weinstein et les soutiens subséquents au mouvement « Moi aussi » que plusieurs allusions politiques contre la présidence Trump, dont une encourageant les Américains à joindre les victimes de la fusillade de Parkland à la marche vers Washington le 24 mars. Un segment dédié à la diversité aux victimes de harcèlement et de discrimination a mis en évidence les changements en cours en permettant aux premiers concernés de témoigner. Ashley Judd, Annabelle Asciora et Salma Hayek, accusatrices de Weinstein, étaient sur scène. « Nous sommes ici et nous n'allons nulle part ailleurs ». L'Académie a pris note des reproches justifiés sur le manque de diversité à la cérémonie. Plus d'Afro-Américains de femmes pour présenter les catégories. Kumail Nanjiani et Lupita Nyong'o ont d'ailleurs fait une des interventions les plus pertinentes, soulignant que, comme immigrés, ils ont rêvé de faire des films. Une allusion directe aux Dreamers, ces jeunes sans-papiers qui sont arrivés aux États-Unis enfants et qui sont maintenant menacés d'expulsion. Nous sommes avec vous. Et que dire de la présence d'Eva Marie Saint, 64 ans après son trophée pour le solide sur les quais d'Elia Kazan, ou d'Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, qui interprète Room at the Top du regretté Tom Petty pour les disparus de l'année. Merveilleux. En Suisse, vous le savez peut-être ou peut-être pas, la Suisse, c'est le pays des référendums. Là-bas, on est très, très loin d'en avoir peur, comme ici au Québec. N'importe qui peut demander un référendum si on amasse assez de signatures, et le référendum est décisionnel. Le gouvernement est obligé de le mettre en place. Ça nous donne un référendum pour abolir le financement de la télé publique. Les Suisses prêtent main forte à leurs diffuseurs publics, ce que nous rapporte Annabelle Caillou. Les Suisses ont majoritairement voté contre l'abolition de la redevance audiovisuelle dimanche lors d'un référendum qui menaçait la survie de leurs diffuseurs publics. Le non l'a emporté haut la main avec 71,6% des voix. L'initiative est partie du mouvement jeunesse du Parti libéral radical en 2014 qui a pu réunir les 100 000 signatures nécessaires pour organiser le référendum. Alors la télévision suisse doit maintenant faire un gros, gros ouf. Dans la tribune, Steve Bergeron se livre une critique de « L'heure de plaire » de Laurent Paquin, c'est le titre de son texte. Devant une salle Maurice Aubry des Plaines presque à ras-bord, environ 1400 personnes et autant attendues ce soir, Laurent Paquin est venu présenter son quatrième spectacle solo « Déplaire ». Le spectacle s'appelle « Déplaire », mais bizarrement, c'est lorsqu'il s'éloigne un peu de cette thématique, celle de vouloir plaire à tout prix, qui teinte surtout la première moitié, que le rondouillet humoriste atteint davantage la cible. Un spectacle moins réussi que le précédent, mais qui a quand même l'heure de « plaire » à la majorité. La précédente prestation du Valois d'origine, « L'erreur est humaine », tranchait déjà avec celle d'avant. Tout est relatif, reléguant au souvenir un Paquin plus bon enfant, faisant émerger un humoriste plus cru, plus direct, mais aussi plus engagé. Virage réussi à l'époque, même si on s'ennuyait de la version plus gentille du personnage. Déplaire poursuit dans cette même direction plus râpeuse. La pire façon d'apprendre que ton meilleur ami couche avec ta blonde, c'est lorsque son pénis goûte ta blonde, lance-t-il en entrant sur scène, avant même toute salutation. Ben dingue. Un gag baromètre, lui permettant de jauger le niveau de tolérance de son public et de le prévenir de ne pas se plaindre de la suite. Suivront 90 minutes où, dans un remarquable souffle, l'humoriste, ancien petit gars fin, passera en revue toutes les situations où l'on tente de plaire et où il ne faudrait pas, sans ménager son langage ni les allusions sexuelles ou scatologiques. On est encore loin de Mike Ward ou de Peter McLeod, tout comme on l'est aussi du Laurent des débuts. En ce sens, on pourrait dire que Paquin suit simplement son époque, une sorte de ras-le-bol collectif qui a besoin de sortir sans pour autant perdre toute son intelligence. Ça n'empêche pas les gags gratuits, les Steve comme moi y ont goûté, ni quelques excès de grossièreté, mais le côté éditorial prend assurément plus de place qu'avant et vise juste.
À fleur de peau, le soleil m'éblouit. Ah, ah, mon cœur prend l'eau en un coup de vent. Mon corps s'oublie. À fleur de prose, des perles de jeunesse.
me blesse comme autant de fausses promesses. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit, le souvenir de ta main. Sur ma fleur de peau.
Valérie Carpentier à fleur de peau.
Alors, il nous reste quelques minutes pour des nouvelles peut-être un peu plus légères, ou pas, ça dépend comment on les prend. Un métier qui renaît, semble-t-il, le métier de majordome revient au goût du jour, ce que rapporte Fanny Lévesque dans la presse. Serrer les chaussures, faire briller la vaisselle, défaire avec soin les bagages, autant de tâches dont doit s'acquitter un majordome. Métier d'une autre époque? Pas aux yeux d'une dizaine d'élèves de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec qui ont terminé vendredi dernier une toute première formation sur cette mystérieuse profession. Cette semaine remet tout en perspective. On sort de là avec une ouverture d'esprit, une passion peut-être. Alexandra Jade Girard étudie en gestion touristique à l'ITHQ. Elle et une poignée de ses camarades ont plongé, un peu à l'aveugle, dans une semaine de formation intensive sur le métier de majordome offert pour la première fois par l'Institut. Ils étaient tout sourire en recevant leur diplôme dans le hall de l'établissement de formation. L'initiative commémore la mémoire de Pierre Gagné qui a servi pendant 18 ans les premiers ministres du Québec. Le bien connu majordome a œuvré dans l'intimité de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry et Jean Charest jusqu'en 2012. Pierre disait que son métier n'était pas aussi gratifié qu'en sol européen, a exprimé sa femme Lorraine Frappier. Il voulait qu'on élève ce métier-là, parce que la profession demeure méconnue et est toujours frappée du préjugé d'agir en serviteur ou servant. La réalité est loin de tout ça, ont affirmé les jeunes au terme de leur immersion accélérée. Le métier évolue, a assuré l'enseignant invité Clarence McLeod, membre de la Guilde internationale des majordomes établie à Londres. Avant, c'était, oui, davantage un rôle de servitude. Maintenant, on parle beaucoup plus d'une relation qui se construit avec la personne dont nous prenons soin, explique-t-il. Mais que fait vraiment le majordome? Il fait tout, littéralement. Répond Alexandra Jade. Il peut faire la cuisine, le repassage, serrer les souliers, placer la table ou même s'assurer de réveiller la personne à la bonne heure, énumère-t-elle. Son rôle est d'optimiser le temps de celui pour qui il travaille, résume son camarade diplômé Maxime Noël de Tilly. Ce n'est pas de servir quelqu'un qui est paresseux, nuance le jeune de 22 ans. Pour ces gens-là, la denrée rare, c'est leur temps. Ça devient un travail d'équipe. C'est pour optimiser leur productivité. C'est aussi dans cette optique que le métier devient gratifiant, expliquent les deux élèves. C'est vraiment être là pour l'humain, ajoute Alexandra Jade. Madame Frappier va dans le même sens. Pierre n'aimait pas la politique et heureusement, parce qu'il pouvait tomber sur n'importe quelle tuile chez les libéraux ou au Parti québécois, et pour lui, ça ne change rien. Il a toujours dit qu'il était au service de l'homme, du premier ministre. Il n'y avait aucune couleur politique, assure-t-elle. Pierre Gagné s'amusait à se décrire comme un homme sourd, aveugle et muet, puisque la discrétion est l'une des qualités primordiales pour être un bon majordome. Il faut avoir beaucoup de tact, ne rien voir, ne rien entendre, être observateur, bien se présenter et être capable de travailler sous la pression. C'est l'essence du métier, affirme M. McLeod. Je n'ai jamais rien su, jamais, jamais, pas un mot, confie Mme Frappier. Pourtant, il en a vu des choses, des remaniements ministériels, le verglas, le référendum de Parizeau, énumère-t-elle. L'ancien premier ministre Jean Charest est d'ailleurs venu à la rencontre des élèves durant la semaine pour leur parler de l'importance du rôle de majordome. Se faire passer un savon par sa mère reste une expérience qui peut être assez étrange. Dans ce cas-ci, vous allez voir, ça le devient peut-être encore plus. Du savon avec son lait maternel, un texte de Caroline Lepage publié dans le Journal de Montréal, ça nous vient de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Une mère de 3 enfants fait des savons avec le lait maternel qu'elle produit pour son nouveau-né et souhaite partager sa recette avec d'autres mamans. Propriétaire de l'entreprise Savon de campagne depuis 5 ans, Shirley-Anne Gauguin a innové en remplaçant le lait de chèvre par du lait maternel pour concevoir ses savons. Comme elle allait actuellement sa petite Abigail, âgée d'un mois, elle utilise son propre lait qu'elle extrait et conserve. « Ma recette de savon est composée d'environ 15% de mon lait maternel, qui est très nutritif parce qu'il comprend plus de minéraux et de protéines que l'eau habituellement utilisée. » Ça hydrate bien la peau des bébés, explique cette femme de 28 ans. De plus, elle trouve gratifiant de laver son enfant avec un peu d'elle-même. À sa savonnerie de Sainte-Brigitte-des-Sceaux, située au centre du Québec, Shirley-Anne tient déjà plusieurs ateliers de conception de savon et autres produits de bain avec les jeunes et les adultes. Elle souhaite désormais offrir aux nouvelles mamans avec leurs tout-petits de fabriquer leur savon avec leur propre lait maternel. Les mamans sont en congé et veulent faire des activités avec leur bébé. C'est très tendance actuellement de faire des choses par soi-même, constate cette mère de 3 enfants. L'atelier pour 3 personnes dure 4 heures et coûte 75 $, incluant les produits pour faire les savons. Les participantes doivent bien sûr fournir leur lait maternel, soit un peu plus d'une tasse pour faire 2 kilos de savon. C'est encore mieux si le lait est congelé parce qu'il conserve ses propriétés, précise-t-elle. Avec du lait, maternel ou pas, ces savons sont tous conçus avec des produits naturels. Le lait des 2 chèvres qui vivent à la ferme est également recommandé pour les peaux sensibles des bébés ou ceux qui souffrent d'eczéma. La résidente du centre du Québec croit être la première à développer ce type de savon. « Je n'en ai pas vu ailleurs », commente-t-elle. L'entrepreneur développera aussi une bombe de bain effervescente que les futurs parents pourront donner à leurs proches pour leur annoncer, de façon originale, le sexe du bébé à venir. Une couleur non visible de l'extérieur sera dissimulée dans la bombe. Oui, quand celle-ci sera mise à l'eau et qu'elle deviendra rose, cela voudra dire que les parents attendent une fille. Si c'est bleu, eh bien, ça sera un garçon. Tant pis. « J'essaie vraiment de faire ce que personne n'a encore fait », lance-t-elle. Madame Gauguin a même lancé les savonnettes pompettes pour les fans qui veulent faire leur savon avec un verre de vin ou plus. Allez, en bon grand bien, je vous amène dans une des cuisines les plus exotiques de la province, celle du zoo de Granby, un texte de Marie-France Letourneau paru dans La Voix de l'Est. Ariane Guertin-Cabana, Alexandre Gilbert et Virginie Thibault-Pétel sont responsables de la préparation des aliments servis aux nombreux pensionnaires du zoo. Les visiteurs du zoo de Granby peuvent compter sur une équipe de cuisiniers pour combler leurs fringales, l'imposant contingent d'animaux pensionnaires aussi. Un trio de techniciens en santé animale s'active au quotidien dans une petite cuisine pour nourrir la majorité d'entre eux. Incursion dans les coulisses du zoo. Les trois techniciens maîtrisent tous les besoins alimentaires de la grande famille animale. Ils connaissent la préférence des chauves-souris pour les bananes bien mûres et savent que les lémures ne doivent pas consommer d'aliments riches en fer, comme le brocoli ou les épinards. S'ils souhaitent faire plaisir à Miko, le quincajou, ils n'ont qu'à lui servir des avocats. Ils veillent aussi à ce que Chili, une femelle macaque japonais diabétique, ait une diète moins riche en glucides. Rien n'est laissé au hasard, relève Ariane Guertin-Cabana. La diète de chaque espèce est consignée au gramme près dans un épais cartable qui fait en quelque sorte office de livre de recettes. On a beaucoup d'animaux à gérer. Il faut aussi savoir qui mange à chaque jour, parce que ce n'est pas tout le monde qui mange quotidiennement, comme les serpents. Il y en a qui mangent de une à deux fois par semaine. Les plus gros, c'est aux deux semaines, précise-t-elle. 7 jours sur 7, les membres du trio se relaient ainsi dans la petite cuisine, non visible du public, pour préparer les rations quotidiennes des animaux sous leur responsabilité, soit ceux qui consomment des fruits et des légumes et de la moulée, c'est-à-dire environ 80% des 250 espèces animales présentes au zoo. Les autres, comme les éléphants, les hippopotames ainsi que les félins, sont pour leur part nourris directement par leurs gardiens, de foin, de moulée ou de viande selon leur alimentation. La facture d'épicerie annuelle pour sustenter l'ensemble des animaux du zoo s'élève à environ 250 000 $ selon les informations transmises. Deux fois par semaine, le grossiste effectue ainsi des livraisons et je puis vous assurer que la qualité est celle qui est en place dans les restaurants, la norme étant que si le technicien ne le mangerait pas lui-même, il ne le sert pas à un animal. C'est déjà tout pour cette revue de presse. Je vous invite à rester à l'écoute pour les paractualités. Je remercie Jean-Sébastien, Éric, Charles, Claude, Albert, La Liberté qui a assuré la mise en onde de cette émission et les choix musicaux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition du Quotidien des quotidiens.